Bonjour et bienvenue sur cet épisode du podcast Au-delà des frontières. Aujourd'hui, nous discutons la musique classique ayant un invité venant d'au-delà des frontières, spécifiquement la France. Il va nous parler de son expérience avec la musique classique. Moi, c'est Kelvin alias Leroy. Bonjour Thomas.
Eh bien, bonjour Kelvin.
Je crois que vous avez, vous êtes experte dans la musique classique.
Oui, on peut dire ça. Je pars. C'est à la fois mon métier et puis je suis investi dans un projet un peu particulier.
Oui.
Qui s'appelle Mirlingue et voilà, qui fait le lien entre la musique classique, l'Afrique et les Caraïbes.
Ok, avant de bien introduire votre projet, est-ce que vous pouvez nous donner une présentation en bref de vous-même?
Oui, alors là, en ce moment, moi, je suis à Cannes, qui je crois est une des villes françaises les plus connues après Paris, où il y a le festival du film, parce que je travaille là-bas, moi je travaille avec un orchestre, donc je suis vraiment dans ce métier, et à côté, je suis investi dans un projet donc qui s'appelle Mirlingue, qui veut dire mille langues, voilà, qui fait des projets un peu nombreux depuis une dizaine d'années, qui font, on va dire, j'aime à dire qu'ils font un lien entre la musique classique, l'Afrique et les Caraïbes. Moi-même, donc, je travaille à la régie générale dans un orchestre, donc à l'organisation de la musique classique. Je fais des études musicales, instrumentales, je fais des études universitaires, donc je connais bien ce milieu. Et voilà.
Bon, ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que c'est la musique classique pour vous?
Oui, alors la musique classique, je pense que tout le monde a une petite idée. Mais alors, si je pouvais me permettre une petite métaphore, c'est un petit peu comme l'activité physique, c'est-à-dire tout le monde peut un peu bouger, faire des choses physiquement. Après, si on veut devenir un sportif professionnel, eh bien... souvent, il faut avoir commencé dans son jeune âge, oui. Il faut respecter des règles qui sont assez complexes, il faut disposer de tout un matériel, un dispositif, des salles, des stades, du matériel, il faut aussi tout un environnement, oui. Des entraîneurs, voilà, il y a la gestion du public aussi qui vient dans les stades, etc. Et la musique classique, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que gérer un orchestre, mettre tout le monde ensemble, il y a des questions d'instruments, il y a des questions de règles d'écriture musicale, il y a tout un écosystème, c'est un système un peu complexe.
Ouais.
C'est un peu la différence entre juste faire un peu de musique soi-même et arriver à en faire avec des groupes compliqués, avec beaucoup de monde. Et en même temps, c'est quelque chose, c'est comme le sport qui est très populaire, la musique classique, et ben, en fait, des orchestres, on en entend un peu partout dans les musiques de films, des publicités, des tas de choses comme ça.
Oui.
Voilà. Et donc, le point de départ de Mirlingue, c'était de se dire que la musique classique, on a toujours l'impression que c'est des choses qu'on trouve beaucoup en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, mais qu'il y a, en fait, il y a des liens importants qui existent avec l'Afrique et les Caraïbes, et c'est pas, l'idée qu'il n'y a rien du tout, enfin que le continent soit absolument étranger à tout ça, c'est exactement le point de départ de démonstration opposée de Mirlingue et à partir de là, développer encore plus de choses. Voilà.
Ok. Est-ce que vous pouvez parler en profondeur de votre projet Mirlingue?
C'est possible de répéter une deuxième fois la question, désolé.
Oui, est-ce que vous pouvez nous parler en profondeur de votre projet, votre projet de Mirlingue?
Oui, oui. Alors, Mirlingue, j'en ai touché un peu deux mots.
Oui.
C'est un projet qui est né un peu par hasard et par affinité, parce que ma compagne est d'origine martiniquaise. La musique classique, c'est un élément de la modernité. C'est un peu comme le football, etc., ou le basket. On trouve ça un peu partout. Ici, il n'y a pas d'endroit de... Alors certes, il y a beaucoup d'autres musiques en Afrique qui prennent, on va dire, la vedette, mais c'est pas du tout impossible d'imaginer des choses avec un orchestre, avec différents instruments et des compositeurs en Afrique. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de compétences non plus dans ce domaine-là. Et en plus, si on fouille un peu dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a des liens qui sont anciens, qui sont simplement méconnus. Et donc, c'est à partir de ce constat que, voilà, l'idée de Mirla, c'était de se dire qu'il y avait déjà des compositeurs, des musiciens qui s'intéressaient à beaucoup de choses. Et puis, sans doute encore aujourd'hui, et sans doute des projets à développer et à aider et à construire avec un peu d'ambition, parce que contrairement un peu à un club de foot qui peut se faire un peu en plein air assez facilement, etc., la musique classique c'est quand même assez, quelque chose d'assez fragile, les instruments sont assez fragiles, assez coûteux, long de faire des apprentissages, c'est long de construire un conservatoire, des auditoriums. Un orchestre, voilà, c'est pas des choses simples. Et même en Europe ou aux États-Unis, c'est assez fragile. Il y a des orchestres qui ferment, il y a des conservatoires. Enfin, voilà, là, c'est des choses assez difficiles à mettre en place. Mais il n'y a pas de raison que des choses puissent ne puissent pas se faire en Afrique ou aux Caraïbes où des étudiants qui viendraient de là peuvent avoir des choses à faire. Et de la même façon que le foot, il y a des professionnels qui font du foot, mais il y a plein de gens qui font aussi du foot. La musique, c'est pareil. On peut très bien aussi apprendre la musique ou chanter dans une chorale en faisant des choses. C'est même plutôt important. Autant le foot, c'est important, ou d'autres sports, c'est important pour le bien-être physique. La musique, c'est aussi important pour la culture générale et pour faire des tas de choses. Donc, autant de raisons de développer et de faire des choses. Voilà.
Vous avez exprimé ou bien vous avez dit que vous travaillez avec le continent africain. Vous y expliquez votre intérêt de travailler avec ce projet de Mirlang, avec le
Oui,
continent africain.
alors, en fait, c'est le lien aussi avec les Caraïbes, hein, qui sont aussi un domaine assez spécial où il y a beaucoup de brassage et beaucoup de choses, y compris avec des réalisations anciennes. Il y a un compositeur qui est originaire de Martinique, qui s'appelle Joseph Bologne, dit le Chevalier Saint-Georges. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de réussite et qui a même été à Versailles, mis en valeur. À l'heure aujourd'hui où des personnes cherchent un peu des exemples de réussite, c'est important aussi de dire que dans le passé, il y a des gens qui ont réussi et qui ont été au plus haut niveau. Il y a d'autres compositeurs qui ont réussi aussi aux États-Unis. Et en Afrique, il y a aussi, pardon, des choses qui se sont passées. Il faut savoir qu'il y a sur le continent même, il y a des institutions qui sont anciennes, hein. Il y a, par exemple, un compositeur très célèbre qui s'appelle Verdi, qui a composé des opéras. Il faut savoir qu'un de ses opéras a été écrit et créé au Caire, notamment en Égypte. Donc il y a des choses anciennes, il y a des orchestres qui existent en Tunisie, au Maroc, en Afrique du Sud. Et il y a un certain nombre d'institutions qui se créent, même au Nigeria, à Lagos. Il y a des compositeurs qui viennent d'un peu partout, qui se forment, qui voyagent. Voilà. Et nous, par exemple, on est partenaire d'un concours, une compétition de musique de chant, une chant lyrique classique qui se tient à Paris, qui s'appelle Africa Lyric Opera, qui est organisée par une ONG qui s'appelle Women of Africa, qui a des actions partout en Afrique et qui essaye de mettre en avant des talents, y compris des talents qui ont déjà réussi, mais aussi pour donner des bourses d'études et faire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un concours qui s'est mis en place de façon autonome. Et nous, au Mirlin, on est venu près de ce concours en disant que c'était important que, à côté de composition de Bach, de Mozart, de Verdi, très célèbre opéra, c'est important aussi qu'il y ait des œuvres de compositeurs liés à l'Afrique qui peuvent aussi s'exprimer en, avec des dialectes africains qui proposent des compositions.
Oui.
Et donc c'est le cas, voilà. L'année dernière, on a eu donc un compositeur sud-africain et une compositrice de Kinshasa en RDC qui ont fait quelque chose. Et cette année, on devrait avoir une autre compositrice d'Afrique du Sud et un compositeur qui est lié à Haïti,
oui.
Qui est au Canada, qui a fait quelque chose. Voilà, c'est des compositions comme ça qui permettent de rencontrer aussi des jeunes chanteurs et d'aider de tels projets. Après, il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Nous, on travaille aussi sur un autre projet avec un compositeur qui fait un centre culturel qui est à côté d'Abidjan.
Oui.
Et on va travailler sur un projet qui sur les liens entre la rumba congolaise et les Caraïbes, parce qu'il y a eu un va-et-vient, un dialogue culturel qui s'est construit.
Oui.
Et voilà, c'est un projet qu'on va essayer de mettre en place, avec aussi des compositeurs de différents pays qui rendent hommage à tout ça.
Oui.
Voilà, il y a un certain nombre de projets qu'on essaye de mettre en place. Il y a peut-être aussi un enregistrement qu'on va faire avec autour d'œuvres d'un compositeur sud-africain. On va essayer aussi de mettre en valeur d'aider un projet d'un concerto qui se crée en hommage au Chevalier Saint-Georges qui va se faire en lien avec la Guadeloupe et la Caraïbe.
Oui.
Voilà, c'est toutes sortes de projets qui essayent de se mettre ponctuellement en place comme ça et qui essayent de dire que à la fois il y a des interprètes qui existent, il y a des compositeurs qui existent, il y a des œuvres qu'on a intérêt à redécouvrir ou à jouer et voilà qu'en fait qu'il y a un patrimoine assez riche.
Oui.
Parce que ce qu'on appelle musique classique aussi, ça repose aussi beaucoup sur l'idée de répertoire, c'est-à-dire c'est pas une chanson qui appartient qu'à un interprète. Et si on veut qu'elle soit jouée, il faut forcément l'inviter lui. Ça dissocie beaucoup plus les œuvres des interprètes et ça veut dire que on est jeune violoniste au conservatoire, et ben on peut jouer aussi bien un peu de Mozart, un peu de Beethoven, un peu d'une musique de film qu'on aime bien, voilà. Et puis on change un peu constamment des œuvres qu'on joue. Un orchestre, un opéra, c'est ça, c'est on repose sans cesse un peu des choses nouvelles.
Oui.
Et c'est pas du tout l'idée d'un interprète qui va travailler un répertoire et qui va faire 60 salles en jouant à chaque fois le même concert. Mais en même temps, si les interprètes qui sont très connus, qui ont leurs chansons, de temps en temps, ils sont contents de pouvoir aussi faire une version avec un orchestre qu'ils rencontrent occasionnellement.
Ah oui, magnifique. Alors, je demandais si vous avez des conseils pour un jeune artiste africain ou quelque part, n'importe où dans le monde, qui aimerait explorer la musique classique.
Alors, en fait, la musique dite classique, pour moi, c'est quelque chose qui appartient à la modernité. En fait, c'est pas quelque chose qui appartient à un pays. La modernité, c'est une sorte d'ensemble qu'on partage tous de plus en plus. C'est-à-dire que, comme Internet, l'électricité, c'est des choses sous les voitures. C'est quelque chose qui va faire partie d'un patrimoine qu'on partage tous.
Oui.
Ça veut pas dire qu'on puisse pas personnaliser les choses. Et donc, ça fait partie d'un vaste ensemble, un répertoire. Et il y a des compositeurs de tous les pays, etc. Moi, je pense que pouvoir apprendre la musique dans une école de musique où on apprend un peu le rythme, le solfège, les harmonies, quitte à en faire beaucoup de choses. Donc, il y a à la fois apprendre la technique et puis après se faire une culture. Et pour faire une culture, il faut aller au concert. C'est bien d'avoir pu entendre des pièces, que c'est qu'un concerto de flûte, un opéra,
oui.
etc. Oui. Une œuvre pour piano. Tout ça, c'est de se forger une culture qui fait que on peut rencontrer d'autres personnes. Et la grande force de la musique classique, c'est que quand on sait lire une partition, on peut prendre sa flûte, son piano, etc. on peut aller demain en Chine, on parle pas du tout chinois, et ben on peut se mettre à côté d'une personne, on prend la même partition, on peut jouer ensemble de la musique, parce que c'est vraiment un langage qui est universel. Et la musique, c'est quelque chose qui, très tôt, mais il y a déjà au moins 2 siècles, enfin, les musiciens ont toujours été des voyageurs, ils ont toujours pu passer les frontières et ils ont été appréciés. Et pour moi, c'est une grande leçon à l'heure où souvent les gens, ils se battent un peu de façon idiote, etc. Et la musique, c'est quelque chose qui, au contraire, permet de voyager, de partager beaucoup de choses. Et quand on sait ça, c'est un grand motif d'espoir aussi, parce que c'est une façon de pas assigner les gens quelque part. C'est un peu de la même façon qu'on peut dire à quelqu'un, tu es dans ce pays, mais peut-être que demain tu deviendras un cosmonaute et puis tu voyageras au-dessus des frontières. Enfin, on n'est pas obligé de réussir ou de se forcer à devenir quelque chose dans l'endroit où on est. On peut voyager et la musique permet ça. Moi, je travaille à Cannes dans un orchestre où il y a beaucoup de nationalités. Il y a des gens qui viennent de Corée, qui viennent d'Espagne, qui viennent du Japon, qui viennent de différents pays.
Oui.
Il n'y a pas de raison que demain, il y en a déjà, mais qu'on ait beaucoup plus de musiciens qui viennent du Nigeria, qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Mali, qui viennent du Maroc, qui viennent d'Afrique du Sud. Et inversement, c'est rencontrer des gens. Parce que les concerts font voyager de plein de façons.
Mmh.
Après, c'est des métiers qui demandent de l'abnégation, de la rigueur, etc. Mais c'est aussi, en fait, la musique classique, mmh, en Europe, c'est une longue tradition. Mais par exemple, en Asie, c'est très apprécié parce que c'est des valeurs qui sont liées à l'effort, à la réussite. Enfin, les gens qui travaillent régulièrement leur musique, ça peut être très exigeant. Hein. Il y a des étudiants qui travaillent 5 heures de piano par jour, voire plus. Après, si on veut vraiment réussir, c'est de la même façon quand on fait du foot. On peut être travailler énormément, mais donc il y a des valeurs d'effort et en même temps, il y a des valeurs collectives. Il y a un grand projet en Amérique du Sud qui s'appelle El Sistema, où l'idée, ça a été de dire: quand on a une favela, c'est un endroit qui est pauvre, c'est mieux d'apprendre à des enfants à jouer ensemble dans un orchestre plutôt que de leur mettre des valeurs sportives où ils pensent qu'à gagner des millions en devenant et s'acheter une Ferrari. Parce que quand on joue dans un orchestre, la première chose qu'on apprend en répétition, c'est que si on vient et qu'on n'a pas travaillé sa partition, on pénalise tout le monde parce que personne ne peut avancer parce que soi-même, on n'a pas appris sa partie.
Mmh.
Et de la même façon, si jamais on est absent, et ben, dans la symphonie, s'il manque la trompette solo, et ben, il manque quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on est obligé de partager à plusieurs. Ça, c'est des valeurs collectives qui sont très importantes. Donc, il y a beaucoup de valeurs qu'on peut partager et il y en aura encore d'autres. Mais tout ça fait que c'est des choses... C'est un bagage qui est jamais perdu. Enfin, quand on a appris ça, quand on est petit, on a fait de la musique et qu'on a développé ça, on garde ça toute sa vie. Alors, on peut devenir soi-même un musicien professionnel, mais de toute façon, ça apporte quelque chose. Ça apporte une plus-value. Et c'est juste dommage d'avoir des gens qui viennent pas au concert parce qu'ils pensent qu'ils comprendront pas les choses ou qu'ils apprécieront pas parce qu'ils osent pas. Mais c'est une grande partie du travail aussi de convaincre tout le monde que c'est quelque chose qu'on peut apprécier. Il y a tellement d'œuvres, tellement de choses que c'est forcé qu'on trouve des choses qui nous plaisent. Voilà.
Ok, merci. Sur la question de l'intelligence artificielle, qu'en pensez-vous du futur de la musique classique?
Disons que je suis un peu partagé dans le sens où il y a forcément des outils, comme tout le monde, qu'on utilisera, l'informatique, c'est un outil qu'on utilise, je veux dire, dans l'organisation des tas de choses. Moi, j'ai un ordinateur, j'ai plein de mails, donc il y a sûrement des choses qui peuvent se développer. Après, le problème de l'intelligence artificielle, c'est que... quelque part, quand on écoute un interprète qui joue, on écoute quelque chose avec ses faiblesses, le côté un peu émouvant justement d'une fragilité. Oui. Donc c'est important qu'on ait des hommes derrière. Après, si c'est des machines, je pense que ce sera pas la même chose. Et puis, de la même façon, la musique classique, c'est toute une histoire où l'histoire de la musique classique, c'est, il y a eu plein d'œuvres à chaque époque. Alors, à l'époque de Mozart, il y a eu plein de symphonies. Simplement, il y en a d'autres qui ont été plus émouvantes que d'autres et qui sortent de la moyenne, et c'est celle-là qu'on a retenu, et les gens se sont dit, regardez, souvenez-vous que ça c'est bien, et c'est une tradition, c'est une transmission qui se fait de choses qui sont plus émouvantes que d'autres. Souvent, l'intelligence artificielle, elle fait une moyenne des choses. Elle propose quelque chose qui ressemble un peu, qui est vraisemblable, qui est une sorte d'imitation moyenne. Et ça, enfin, en musique classique, on en a eu plein, et c'est toujours des choses qu'on a mis de côté. Donc, si l'intelligence artificielle ne sert qu'à fabriquer des choses comme ça,
oui.
Alors, certes, ça peut rendre service parce que ça permet de faire une publicité sans payer un vrai compositeur, mais je pense pas que c'est un grand avenir de ce point de vue-là.
Okay.
Si l'intelligence artificielle, c'est juste prendre des choses qui existent, en faire la moyenne, et puis être capable de le faire plus vite qu'un être humain. Tu cherches pas à être créatif. Voilà, c'est ça. Ça, c'est mon opinion.
Ok, magnifique, génial. Alors, où peut-on trouver votre travail ou bien le suivre et découvrir Mirlang?
Alors, Mirlang, nous, on fait des projets qui sont souvent liés à des rencontres ou occasionnelles, qui sont parce que on dispose pas de moyens. Donc, l'occasion fait que on peut aider quelque part.
Oui.
Alors, on n'est pas non plus une fondation qui propose des aides, etc., parce que de toute façon, on serait submergé de demandes ou d'aides, parce que c'est un peu, voilà. Mmh. Donc, on ne fait pas une publicité si énorme que ça, mais, alors, de temps en temps, il y a plusieurs choses. On a un site internet, mais qui n'est pas forcément encore à jour. Là, comme on vient de passer 10 ans, on va plutôt faire une sorte de bilan d'activité, mais il faut qu'on le mette en page et on va le sortir. Après, on a sorti quelques ouvrages qui sont un peu des recherches sur certains domaines qui permettent, par exemple, il y a un journal spécialisé qui s'appelle le Journal of African Musicology, et dans lequel il y a plusieurs articles qui sont sortis dessus. Il y a un livre un peu plus grand public qui est sorti, qui s'appelle Mirlang au féminin, qui met un accent sur un domaine qui n'est pas du tout mis en valeur, c'est les compositrices liées à l'Afrique et les Caraïbes. Un domaine, déjà que les compositrices en musique classique, il n'y en a pas beaucoup, mais alors dans ce domaine, il y en a peu. Donc, il y a un ouvrage qui est sorti. Et de temps en temps, voilà, il y a des ouvrages qui sortent un peu liés au Chevalier Saint-Georges ou d'autres choses. Et puis, on aurait envie d'en faire davantage, évidemment. Et puis, voilà. Donc, on communique un peu de temps en temps sur les réseaux. Et voilà.
Ah, ok. Alors, merci beaucoup pour votre temps. L'entretien touche sa fin.
Eh ben, avec plaisir. Et puis, on espère que les choses continuent de se développer parce que on est, de toute façon, pas notre philosophie, c'est pas du tout de considérer qu'on est des concurrents, qu'il y a des concurrents en faisant d'autres projets. Nous, plus des projets peuvent se mettre en place, mieux ça nous semble utile, voilà. Et on espère que des projets se développeront et se partageront,
oui.
Voilà, et pour la culture. Voilà.
Voilà l'entretien entre moi et Thomas sur la musique classique. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose concernant la musique classique, les collaborations qu'ils font en Afrique, aux États-Unis, au Canada et tout ça. Et au-delà des frontières, on est à la fin. Ayez une belle semaine à l'écoute de Radio Santon. À la prochaine.